Planète Immo, l'info immo qu'il vous faut. Une émission présentée par Mickaël Nogal, président du Conseil National de l'Habitat.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Immo, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce quatrième numéro de Planète Immo. Planète Immo, c'est votre rendez-vous mensuel pour tout savoir de l'actualité du logement, avec des chiffres et plein de conseils. Vous les attendez, vous les écoutez, vous les aimez, vous les réclamez même. Oui, je pars de la petite bande qui m'entoure. Henri Bujicazo, président et fondateur de l'IMSI, l'Institut de Management des Services Immobiliers. Rosine Conant, directrice générale de l'ANIL, l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement. Et Séverine Amat, qui nous suit en visio, directrice des Relations Médias du groupe Se Loger. Vous le savez, chaque mois, nous avons un invité de marque, un grand témoin. Ce mois-ci, et Actu oblige, nous accueillons Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des dépôts. Olivier, merci d'être avec nous. Alors, le grand public ne vous connaît pas, mais le monde du logement et le monde de la politique ne parlent plus que de vous. Et on vous dira pourquoi, évidemment. Vous qui nous écoutez, vous vous demandez pourquoi. Eh bien, Olivier, vous avez été chargé par le gouvernement d'une mission pour développer et accélérer la rénovation énergétique des logements. Alors, avant de vous donner la parole, Olivier, on va revenir avec Roselyne sur l'essentiel pour comprendre la rénovation énergétique.
Planète Immo, les conseils de la NIL par Roselyne Conant.
Alors, Roselyne, on va se faire une petite FAQ de la rénovation énergétique. D'abord, qu'est-ce que c'est le DPE, le diagnostic de performance énergétique ?
Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, peut-être un chiffre déjà. 10 millions de logements possèdent un DPE, c'est-à-dire un tiers du parc. On a une visibilité sur leur performance énergétique parce que ce diagnostic de performance énergétique, il permet de connaître justement le niveau de performance et il est matérialisé par des lettres. Donc c'est vrai que pour les logements les moins énergivores, ils seront classés en A, sont les bons élèves.
Comme sur les machines à laver.
Comme sur les machines à laver, voilà. Et pour les mauvais élèves, ils seront classés en F et G. On parlera de passoire énergétique, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc c'est vrai que le DPE, il existe depuis 2006. Il a vraiment un objectif d'informer. Alors d'informer qui ? À la fois les candidats locataires et les candidats accédant à la propriété. Ça permet justement de comparer deux logements qui auraient des caractéristiques similaires, hein, de taille, de prix. Eh bien, peut-être que la différence, elle se fera au niveau de la performance énergétique parce que cela veut dire que en termes de facture d'énergie, ça va avoir un enjeu fort. Et puis, des travaux ultérieurs à réaliser parce que... on sait hein, que les réglementations successives et à venir vont imposer des niveaux de performance. Et à terme, on le verra en 2028, l'interdiction sous réserve du vote d'une loi de la location, la mise en location des passoires énergétiques, c'est-à-dire des logements classés en catégorie F et G. Donc il y a un véritable enjeu de connaître et de bien connaître ce que l'on va acheter ou louer pour le faire en connaissance de cause.
Vous l'avez dit, il y a une loi qui est en préparation, la loi Climat et Résilience, qui est issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. C'est 150 citoyens tirés au sort. On parle du DPE dans cette nouvelle loi parce que le DPE va changer au 1er juillet prochain. Qu'est-ce qui va changer concrètement ? Aujourd'hui, les Français peuvent voir sur des annonces immobilières, par exemple, deux étiquettes. Une étiquette concernant la consommation énergétique de leur logement, une autre étiquette concernant les émissions de CO2. Qu'est-ce qui va changer au 1er juillet, Roselyne ?
Alors, plusieurs choses vont changer. Tout d'abord, on va avoir justement l'unification de ces deux étiquettes en une seule. Hein, on va vraiment mesurer la performance énergétique via une seule note qui va fusionner ces éléments. Et la méthode de calcul va devenir unifiée, c'est-à-dire que pour tous les logements, on va fonctionner en prenant en considération beaucoup plus d'éléments. Les diagnostics établis sur la méthode des factures, ou quelquefois on n'en avait pas du tout, elles vont disparaître pour justement rendre ce diagnostic beaucoup plus fiable et plus représentatif de la performance réelle énergétique. Et une grande avancée, c'est l'opposabilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire opposable ? Ça veut dire qu'avant, alors on va le distinguer de sa valeur qu'il avait avant, il avait une valeur indicative et de simples informations. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se retourner contre son bailleur ou le vendeur pour un motif, effectivement, lié à cette performance. Aujourd'hui, il devient opposable, c'est-à-dire que grâce à la fiabilisation renforcée de ce document, on va pouvoir s'appuyer sur les éléments qui sont contenus dans le DPE Et puis, l'acquéreur estime qu'il a subi un préjudice économique, il pourra engager la responsabilité du vendeur, qui se retournera contre le diagnostiqueur, s'il y a une erreur également qui a été faite dans la réalisation de ce diagnostic. Et puis, important aussi, on parlait d'une seule note, le nouveau design, c'est-à-dire que la présentation, elle va être simplifiée. L'objectif est l'accès à l'information et la bonne compréhension de ce que vous aurez dans un DPE. Donc, l'évolution au 1er juillet, donc, si on synthétise, c'est quelque chose de plus compréhensible, plus fiable et opposable.
Ok, donc ça va dans le sens de la protection du locataire. Vous parlez de la fiabilité. Aujourd'hui, on a 20% des logements qui n'ont pas de DPE. On parle de DPE vierge parce qu'il n'y a pas de données. Et vous l'avez rappelé, il n'y aura plus demain de DPE réalisé à partir des factures. Qu'est-ce qu'on regarde du coup pour calculer la performance énergétique d'un logement ?
Alors, on va prendre en considération la qualité du bâti, le mode d'énergie, l'isolation, la qualité des fenêtres, les différents types d'équipements utilisés. Donc, on va vraiment s'appuyer sur un panel d'informations beaucoup plus large et beaucoup plus fiabilisé.
D'accord.
Voilà. Alors, et bien évidemment, on le rappelle, hein, ce sont des diagnostics qui sont faits par des professionnels, qui sont certifiés, les diagnostiqueurs. Et c'est aussi tout l'enjeu de la fiabilisation de ce diagnostic. Il y a à la fois la méthodologie et à la fois, bien sûr, les diagnostiqueurs qui réalisent ce travail.
Alors, est-ce qu'il existe un label ou comment on reconnaît un vrai professionnel ? Parce qu'on voit que sur la rénovation énergétique, parfois, il y a des abus. Est-ce qu'il y a un signe distinctif pour choisir un bon professionnel pour réaliser ce diagnostic immobilier ?
Alors, si on renvoie effectivement à la chambre des diagnostiqueurs, on pourra facilement trouver un professionnel dans son secteur qui interviendra pour faire les diagnostics.
D'accord. Il y a une autre chose qui change dans la loi, ça va être l'audit énergétique. Alors là aussi, les Français pourraient s'y perdre. On parle de diagnostic, on parle d'audit énergétique. Ce n'est pas exactement la même chose. Ça n'a pas non plus le même coût. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'audit énergétique ?
Alors, ils ont des points communs, hein, le diagnostic et l'audit et le DPE. La valeur d'information, on l'a vu, hein, bien connaître ce qu'on va louer ou ce qu'on va acheter. Un moyen de comparaison et un moyen d'inciter aux travaux. Donc ça, ce sont leurs points communs. La seule chose, c'est que l'audit, elle va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il va y avoir une visite sur site approfondie qui va permettre de faire de la préconisation du chiffrage de travaux. C'est vraiment un outil d'aide à la décision. Le DPE reste un outil d'information et d'incitation aux travaux et l'audit, vraiment un outil d'aide à la décision qui permet d'avoir justement un chiffrage et surtout une hiérarchisation. Parce que l'enjeu, quelquefois, on ne peut pas forcément entamer une opération de rénovation dans sa globalité. Donc on peut faire une rénovation par étapes. Et là, justement, cet audit va aider soit la copropriété, soit le bailleur, justement, ou le propriétaire, à définir ce programme de travaux. Parce qu'un programme de travaux, c'est à la fois des enjeux techniques, des enjeux de isolation des toitures, changement des fenêtres, isolation des planchers bas, changement du système de chauffage, enfin, plein de choses. Mais c'est aussi un financement à obtenir et puis un processus décisionnel. Et quand on est dans une maison individuelle, le processus décisionnel ne sera vraiment pas le même qu'en matière de copropriété. Donc c'est vrai que tout ça, tous ces enjeux, il faut les penser, il faut poser son projet et puis justement ces outils aident à les construire.
On parlera des sujets de la copropriété avec notre invité. Avant de lui donner la parole, peut-être, Roselyne, pour donner une indication à nos auditeurs, le DPE, ça coûte combien et l'audit, ça coûte combien ? Quelles sont les fourchettes de prix pour que les Français se repèrent un peu là-dedans ?
Alors, un audit, on est plutôt aux alentours un peu plus d'une centaine d'euros. Hein, 100,
audit 100, ou DPE ?
DPE, pardon. On est plutôt 100-150 euros. Sur un audit, je pense qu'on peut multiplier par... Alors, ça va dépendre de l'ampleur du bien. On multiplie au moins par 3 ou par 4. Enfin, ça dépend de la taille du
bien. Ça dépend de l'immeuble,
de la surface.
De l'immeuble.
Voilà.
Très bien.
Olivier, le temps passé n'est pas le même aussi. Hein.
C'est vrai. Olivier Sichel, bonjour. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez été donc missionné par le gouvernement en début janvier pour faire des préconisations pour, je le disais, accélérer la rénovation énergétique dans notre pays. Vous êtes directeur général délégué de la Caisse des dépôts. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler le cadre de votre mission et peut-être les grandes préconisations ?
Oui, tout à fait. Donc Emmanuel Wargon, ministre du Logement, et Bruno Le Maire m'ont demandé de... de massifier la rénovation énergétique de ce qu'on appelle les passoires thermiques. Donc les passoires thermiques, c'est les 4,8 millions de foyers qui sont dans les, selon justement le DPE, dans les classes les plus basses. Et pour ça, donc, je suis parti du ménage. En réalité, j'ai regardé quels étaient les freins. Et je me suis aperçu que si on avait un dispositif d'information assez complet en France, hein, et Roselyne Collant en anime un très grand, très important, pour autant, les ménages, ils étaient, une fois qu'ils avaient l'information, un peu démunis pour passer à l'acte. Parce que c'est des dépenses très importantes. Hein. Un diagnostic, c'est 100 euros. Un audit, c'est peut-être 500 euros. Mais le coût de la rénovation moyenne en maison individuelle, c'est 40 000 euros. 40 000 euros dans lequel les travaux vont avoir lieu chez soi. Donc c'est des dépenses très, très engageantes. Et donc l'une des premières recommandations que je fais dans le rapport, c'est de développer l'accompagnement et de le rendre obligatoire en contrepartie des aides. C'est-à-dire que si on veut avoir des aides, et les aides sont aussi très importantes, c'est une politique qui coûte au budget de l'État 6 milliards chaque année, avec des aides considérables. Sur 40 000 euros, vous pouvez avoir jusqu'à 20 000 euros d'aide de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Eh bien, si on veut toucher ces aides, il faut être accompagné. Avec un accompagnateur qui va faire globalement trois choses. D'abord, qui va faire un audit thermique neutre et indépendant. Et ça, c'est très, très important qu'on puisse rétablir de la confiance avec cette neutralité, cette indépendance. Parce que parfois, vous avez eu dans le passé des gens qui venaient vous recommander des choses qui n'étaient pas adaptées à votre foyer, mais qui allaient être intéressantes pour leur marge à eux.
J'en profite aussi pour dire qu'une entreprise vient d'être condamnée à une amende administrative de plus de 300 000 euros pour non-respect de l'interdiction du démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique, puisqu'on a voté une loi au Parlement pour justement interdire ce démarchage. Donc faites attention et signalez les comportements abusifs.
Alors, ces accompagnateurs Rénov, justement, c'est un point important, Michael. Pour moi, ils devront répondre à un cahier des charges très précis fait par l'État et être agréé par l'État. En contrepartie de cela, l'État les paiera et les paiera à leur juste prix. Ça, c'est important. J'ai aussi vu que cet accompagnement, Roselyne Conan en a parlé, ça dépend de la taille, il faut le payer au juste prix. Et ce juste prix, on l'a évalué dans le rapport, c'est aux alentours de 1 500 euros.
Peut-être rappeler le prix actuel.
Le prix actuel pour l'ANA, c'est 525 euros pour le programme Habiter Mieux Vivre, mais parfois, c'est seulement 100 euros. Ouais. Et on sous-estime régulièrement ce que coûte le fait que la personne se déplace, qu'elle prenne en compte les spécificités du bâti. Parce que je ne demande pas seulement qu'elle se fasse le diagnostic thermique, je demande aussi qu'elle puisse bâtir le plan de financement. Parce qu'il y a beaucoup d'aides. Il y a ce qui s'appelle le maquis des aides, peut-être vous en avez parlé, mais rien que le petit livret de l'ADEME qui recense toutes les aides, il fait 45 pages. Comment voulez-vous que le ménage s'y retrouve? Donc là aussi, le professionnel va faire le plan de financement et va accompagner le ménage dans le déroulé des travaux. Une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, une fois qu'on a bâti le plan de financement, ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi continuer à accompagner le ménage. Et je veux qu'en fin de circuit, il y ait un diagnostic de fin de travaux pour vérifier que les travaux qui ont été prévus ont bien été réalisés, parce que la finalité, c'est quand même la performance énergétique. On fait ça dans le cadre, et vous l'avez rappelé au début, Michael, Convention citoyenne pour le climat, objectif de respecter notre stratégie nationale bas carbone et lutte contre le réchauffement climatique. Or, dans cette politique, il faut que l'État ait plus de données, puisse piloter véritablement sa politique.
Oui, on rappelle que le bâtiment, c'est aujourd'hui en France à la fois tertiaire et résidentiel, 25% des émissions de CO2 et près de 45% de la consommation énergétique. Donc, dans le cadre de cette loi climat et résilience, s'il y a des progrès à faire, c'est notamment sur ce sujet. Vous avez auditionné, j'ai vu, d'abord, je veux vraiment saluer, je montre à l'image pour ceux qui regardent cette émission votre rapport qu'on peut retrouver en ligne. Vous avez auditionné en peu de temps un nombre très impressionnant d'acteurs. Moi, sans faire de flagornerie, je veux vraiment vous féliciter parce que c'est un rapport qui a été pensé très focus usager. C'est-à-dire, on se met à la place du Français qui doit faire le parcours de rénovation énergétique. Ça, c'est peut-être lié à votre parcours plutôt dans le digital, Olivier ?
Oui, merci Mickaël de le souligner. Oui, c'est vrai que je viens du web, j'étais patron de Wenadoo, du guide.com, et il y a d'ailleurs une recommandation dans le rapport de faire une plateforme digitale où l'ensemble des acteurs, c'est pour les accompagnateurs Rénov, puissent avoir l'accès à toutes les informations pour mettre de la fluidité dans le dispositif. Les acteurs qui sont dans le dispositif se plaignent aussi de la viscosité, qu'il faut renvoyer tout le temps les mêmes documents à plusieurs organismes administratifs. Donc moi, je pousse pour que le ménage, une fois pour toutes, il télécharge sur la plateforme son avis d'imposition, son DPE, sa taxe d'habitation, ses revenus, qu'on ne lui redemande pas 107 fois cela, qu'on essaie de standardiser les relations avec les banques qui sont importants pour un produit qui ne marche pas très fort aujourd'hui, qui est l'éco-prêt à taux zéro. Et donc, il y a toute cette partie digitale. Mais j'ai vraiment essayé, si vous voulez, ma conviction très très forte, c'est que sur la rénovation énergétique, il faut que ça parte du ménage lui-même. On ne peut pas l'imposer comme ça. On pourrait le mettre dans la loi, c'est obligatoire. Et alors, si les gens ne sont pas en capacité de le faire et de le faire concrètement, on n'y arrivera pas. Donc il y a tout un écosystème à bâtir. Et je l'ai fait partir de l'amont, c'est-à-dire de l'accompagnateur Rénov. Alors, j'avais que 10 semaines, donc il y a beaucoup de gens que je n'ai pas pu consulter. On a essayé d'aller rapidement. Et puis, de faire un geste, une projection. Et sur le web, on le trouve sur LinkedIn ou sur YouTube. Vous avez une petite animation qu'on a fait en 5 minutes qui montre comment ça pourrait se faire. Bon, dans un monde idéal, hein, je le dis bien, la réalité, c'est toujours difficile. Mais
vous
voilà comment
vous avez prévu l'interopérabilité avec les plateformes existantes.
Oui.
Parce que ça, je pense que c'est l'essentiel, c'est-à-dire que...
Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail aussi, parce qu'on parle en France aussi de fracture numérique. En fonction des générations, et vous le savez, on n'a pas forcément le même usage des outils numériques. Ça, vous y avez pensé quand vous avez réfléchi à ce système, à ce nouveau service digital, et comment ça va se concilier avec la présence dans les guichets des informants et des accompagnateurs? Comment vous envisagez tout ça?
Alors oui, ça c'est extrêmement important. Cette plateforme, elle est dédiée aux professionnels. Elle est dédiée aux accompagnateurs Rénov pour avoir l'interfaçage avec les différentes agences administratives, l'ANA, l'ADEME, la région, les collectivités locales et les banques. 60% des habitants des passoires thermiques ont plus de 60 ans. Alors même s'ils progressent énormément, on sait que ce n'est pas des digital natives. Pour eux, ils auront la possibilité de suivre les travaux et puis de télécharger une bonne fois pour toutes les documents. Mais après, la plateforme ne leur est pas dédiée. S'ils ont des difficultés avec l'outil digital, il y a les maisons France Service qui pourront aider à ces pratiques digitales, à rentrer sur la plateforme. Le réseau de la NIL pourra aussi aider. Mais en pratique, les gens quand même cherchent beaucoup sur le web la rénovation thermique. Un élément intéressant, c'est de voir quand vous faites rénovation thermique, le nombre de publicités digitales que vous avez. Et je regardais même d'ailleurs ce matin sur le web l'excellent édito d'Henri Buzicazo. Vous verrez sur Capital le nombre de publicités qu'il y a pour la rénovation thermique. C'est des pages qui rapportent, cher Henri.
Henri. 40 000 lecteurs hier de cette tribune, voilà. Donc pour ceux qui ont été annonceurs sur Capital,
en fait, c'est ça, vous êtes en train de dire, Henri.
Je suis en train de dire que le sujet est passionnant. Je voudrais souligner une autre vertu du rapport d'Olivier Sichel, c'est que pour la couverture, il a choisi la même charte graphique que celle de Planète Immo.
C'est vrai.
Très exactement.
C'est vrai,
voilà.
C'est vrai.
Alors c'est un hommage. Je crois qu'il faut la remercier.
Sinon on l'aurait pas invité.
C'était la condition.
Voilà. Non. Et puis je voudrais me raccrocher aussi à ce qu'a dit Roselyne tout à l'heure en parlant du DPE, pour répondre à votre question. C'est un outil absolument majeur, populaire. Hein, il est populaire. Il est devenu populaire en quelques années. Il y avait le précédent de l'électroménager, hein, mais c'est très clair aujourd'hui et ça gagne en fiabilité et en opposabilité. Alors, il y a quand même deux sujets qui vont rester derrière ça. On sait, toutes les études le démontrent depuis 2006, et ça ne s'améliore pas vraiment, que la couverture en DPE, elle n'est pas bonne. Mmh. Ça veut dire qu'il y a encore trop d'annonces de biens à vendre ou à louer, l'obligation porte désormais sur les deux, qui ne sont pas équipés de cette information. Ça n'est pas normal. Voilà. Alors, c'est scandaleux, je le dis, quand il s'agit de professionnels qui sont là. Bon, on sait que je peux avoir la dent dure envers ma communauté professionnelle. Je le dis, ça n'est pas normal. Et quand ce sont des particuliers, ça ne l'est pas davantage, parce que c'est le respect de la loi qui est en jeu. Et c'est la clarté de l'information. D'autant qu'aujourd'hui, il est effectivement fiabilisé. Alors, l'opposabilité, il y a une crainte sur l'opposabilité. On se dit, est-ce que ça ne va pas fragiliser les contrats. En clair, je loue un logement, je suis un propriétaire. Est-ce que mon locataire, il ne va pas, trois mois après, me dire bah, « écoutez, non bon, », ou un acquéreur derrière tout ça, il y a la responsabilité des diagnostiqueurs.
Bien sûr.
Au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'ils ils travaillent, ils ont co-construit, il faut le dire. On parle de la chambre des diagnostiqueurs de la FNAIM,
on peut parler de l'autre syndicat. On peut saluer l'effort de la profession de se structurer et de se professionnaliser.
Considérable. Il y a deux grands syndicats, la chambre des diagnostiqueurs, Rosine l'a cité, émanation de la FNAIM, la FIDI aussi, c'est l'autre grand syndicat. Bref, à eux deux, ils ont à peu près un tiers. C'est pas assez, mais un tiers des diagnostiqueurs, il y en a à peu près 10 000 en France. Hein. Mais tous ont fait des efforts, ils se sont formés, ils se sont équipés. Hein, ça coûte cher aussi, les machines dont on a besoin. Il faut régulièrement les caler. Enfin, tout ça, ça définit un corps professionnel qui a fait d'énormes efforts. Il est né en 97 avec le CARES. C'est une très jeune profession. En 20 ans, elle a gagné, je trouve, ses lettres de noblesse. Et puis, responsabilité au sens où, quand on va dire à un propriétaire, écoutez, votre DPE, il est faux. Il est faux, j'ai des factures énormes. Bon, bah, le propriétaire, c'est bien sûr, il va peut-être être responsable de premier rang, mais il va dire, attendez, moi j'ai eu affaire à un professionnel. Aujourd'hui, il y a la responsabilité juridique, diagnostiqueur. Ils le savent, les assureurs qui sont derrière eux ont travaillé depuis 2-3 ans pour que les contrats prévoient tout simplement une erreur professionnelle, parce qu'il peut y en avoir. Il n'y a pas de métier où ça n'existe pas. Donc il faut être aussi très serein par rapport à ça. On achète un logement. Prenons l'enjeu maximum, on le paye 300, 400, 500 000 euros. Il est en fait une passoire énergétique, mais ça n'apparaît pas dans le DPE. Eh bien, le diagnostiqueur sera responsable. Voilà, faut être serein par rapport à ça. Ça s'appelle la responsabilité au sens moral et au sens juridique.
Et je précise que le Conseil national de l'habitat, dont j'ai l'honneur d'être président, a validé très récemment ce projet de DPE et à la quasi-unanimité. Je rappelle, le Conseil national de l'habitat, c'est l'ensemble des acteurs du logement, public et privé, qui s'accordent à dire que ce DPE nouvelle génération qui arrive à l'été va permettre à la fois de retrouver la confiance, je crois que ça c'est un mot qui me tient à cœur,
c'est
mais
certain.
La confiance aussi à la fois dans les rapports locatifs, parce que du coup, quand on loue un logement, quand on est locataire, c'est bien d'être bien informé, de savoir quelles sont les caractéristiques du logement dans lequel on est. Quand on est propriétaire et qu'on s'apprête à vendre, c'est une plus-value aussi, une valeur ajoutée réelle quand on a la possibilité de montrer que son logement est vraiment performant par rapport aux autres. Donc,
Et peut-être pour... aussi compléter, le DPE, il a encore une utilité, c'est que c'est un outil de politique publique, parce que tous les DPE, ils sont recensés dans une base, et ça permet justement de mesurer les évolutions, les travaux. Donc c'est vrai que c'est aussi un enjeu plus macro. Et plus...
Exactement. Et d'ailleurs, les débats en cours à l'Assemblée nationale visent à sortir de ces passoires énergétiques, à faire en sorte qu'on les rénove pour que l'ensemble des Français vivent dans des logements de qualité et avec le confort qu'ils méritent. On a dans l'équipe Séverine Amat. Alors, elle est avec nous en visio aujourd'hui, depuis Aix-en-Provence. Séverine, c'est notre spécialiste des chiffres. Et elle va nous parler justement du profil des acquéreurs, parce qu'avec le groupe Se Loger, ils mènent régulièrement des études. Et donc, je vais laisser la parole à Séverine pour nous dire plus sur ces chiffres.
Planète Immo, l'actu en chiffres avec Se Loger, par Séverine Amat.
Séverine, vous nous entendez ?
Oui, très bien. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous à distance et je suis ravie d'être aux côtés de notre invité, Olivier Sichel. Bonjour. Ravi parce que d'autant plus qu'il vient du web, il a cette vision utilisateur, comme on dit chez nous, user-centric, c'est-à-dire que tout part de l'intérêt de l'utilisateur et de ses comportements. Je vous ai écouté parler, c'est fort intéressant. Vous parlez d'un départ et d'un point de départ sur les ménages. C'est effectivement de là dont partent nos études aussi, puisque nos enquêtes d'opinion, on les réalise depuis 8 ans maintenant au sein de Se Loger. Et on interroge uniquement les porteurs de projets immobiliers.
Justement, Séverine, là-dessus, au regard de votre étude Se Loger, est-ce que les candidats à l'achat sont-ils pro ou anti-travaux ?
Alors, on a interrogé 2402 futurs acquéreurs, précisément, et on leur a posé la question que de savoir s'ils étaient attirés par l'acquisition d'un bien avec travaux. Eh bien, la grande nouvelle, c'est que ça ne leur fait pas peur, bien au contraire. Ceux qui sont déjà dans l'optique d'acheter un bien ancien, mais ceux aussi qui sont indécis, parce qu'il y en a pas mal, qui ne savent pas vers où s'orienter, ou un bien neuf ou un bien ancien, eh bien, l'ensemble de ces futurs porteurs de projets sont intéressés par l'acquisition d'un bien avec travaux. Ils sont 82% pour être précis, c'est un chiffre qui est stable sur ces 12 derniers mois, sur ces 3 dernières enquêtes réalisées. Et ce que l'on peut dire, c'est que ce sont même les plus jeunes. Je vous écoutais dire, Monsieur Sichel, que c'était les personnes qui étaient plus âgées qui étaient à même de faire ces travaux. Et bien là, nous, ce que l'on sait au travers du panel interrogé, c'est que ce sont à 86% des moins de 35 ans et des CSP+, pour 86% d'entre eux. Donc oui, les travaux, mais à condition qu'il y ait d'abord une réponse à un besoin personnel. Voilà, ils ne feront pas de travaux si ça ne leur apporte pas quelque chose en contrepartie, bien évidemment.
Et est-ce qu'on a le profil de ceux qui boudent les travaux, justement ? Il y a à peu près 20% de Français, de futurs hackers, qui boudent un peu les travaux.
Oui, il y en a qui boudent.
Ceux qui achètent du neuf. Mais...
non.
C'est certainement ça, mais en fait, c'est à mon sens des personnes, des porteurs de projets qui manquent d'informations. Ce que j'ai retenu aussi de l'intervention de M. Sichel, c'est qu'il y a un intérêt fort à informer, à accompagner, ce sont ces termes précis. Et nous, ce que l'on jauge et ce que l'on juge au travers de l'étude réalisée, c'est que 52% par exemple des futurs acquéreurs ne connaissent pas MaPrimeRénov. Voilà. Il y a un gros manque d'informations et de pédagogie autour de ces dispositifs. Pourquoi ? Parce qu'aussi, ces porteurs de projets ne se considèrent pas comme éligibles. Ça, c'est très important et c'est quelque chose que je martèle parce que c'est une réalité. Et moi, je vous invite, M. Sichel, à collaborer avec notre étude parce qu'elle pourrait être extrêmement nourricière et vous accompagner non seulement sur cette évolution en termes de pédagogie et d'information auprès de cette cible qui est intéressée par des travaux, mais qui, souvent, pour la majorité d'entre eux, se trouve à côté des dispositifs et ne se sentent pas, en fait, concernés par ces aides. Voilà.
Avant de poursuivre avec Séverine Amat, justement, comment on concilie vous parliez de massification de la rénovation énergétique. Ouais. Avant de massifier la rénovation énergétique, il faut qu'on s'assure que les dispositifs, à la fois le nouveau service d'accompagnement et puis les aides financières, soient connus des Français. Séverine nous dit que les propriétaires, les futurs hackers, ne connaissent pas forcément, justement, toutes ces aides. Comment vous envisagez tout ça avec l'accompagnement global ?
Alors, moi, je pense qu'il y a des acteurs dont on n'a pas encore parlé et qui sont très, très importants, qui sont les élus, les maires, les collectivités locales. Et dans le dispositif que je propose, mon accompagnateur Rénov, ils sont agréés par l'État. Mais avant d'intervenir sur un territoire, moi, je veux qu'ils passent une convention avec le maire pour dire, voilà, monsieur le maire, je suis accompagnateur Rénov, je vais intervenir sur votre territoire, en Haute-Garonne, cher à votre cœur, le député, Michael.
Il l'a dit avec l'accent.
Avec l'accent, je trouve ça merveilleux.
Et donc, pour faire quoi ? Parce qu'on sait que les maires, moi je m'en suis aperçu dans ma mission, ont un pouvoir de prescription très très fort. Quand le maire fait son édito municipal en disant « voilà, je vous incite à faire la rénovation thermique et il y aura dans votre ville un accompagnateur Rénov en lequel vous avez toute confiance », ça, ça a un pouvoir absolument énorme. Discuter avec Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil. Mais aussi, il y a une deuxième chose que je souhaite faire dans cette convention, quand il la conventionne, c'est qu'on prenne en compte les spécificités des territoires. Par exemple, j'étais à Strasbourg, la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, Pierre Hems, elle me dit, moi, ce qui est important, c'est que la rénovation se fasse avec des matériaux biosourcés. Mmh. Alors, en Alsace, c'est la laine de chanvre. Elle dit, moi, je suis prêt à aider plus, à subventionner plus, si cette rénovation, elle se fait avec des matériaux biosourcés. Vous allez voir un autre maire, à La Rochelle, Jean-François Fontaine, qui dit, moi, je suis très pour l'hydrogène, je veux faire de La Rochelle une capitale innovante en matière d'hydrogène. Bon, ben, très bien. Vous allez avoir Patrice Bergrit à Dunkerque qui dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est une rénovation par quartier. Parce que je pense qu'à ce moment-là, vous avez de la capillarité. Parce que les gens d'un quartier vont dire, il y a une logique de rénovation, c'est possible. On l'a fait aux 20 rues de la gare. Vous êtes au 22, vous êtes au 24. On peut le faire aussi. Donc, je pense que les collectivités locales et les élus sont vraiment un relais très, très important parce qu'ils inspirent la confiance. Vous le savez, les Français, ils ont confiance dans leur maire. Alors, je voudrais quand même répondre à Séverine Amat, ouais. Parce que, donc je l'ai dit, en fait, dans les passoires thermiques, c'est 60% des gens qui ont plus de 60 ans. Donc, eux, ils ont un problème, c'est l'accessibilité au crédit. Mmh. Et il se trouve que passé 60 ans, c'est plus difficile d'avoir accès au crédit. Vous êtes à la retraite, vous avez une petite retraite, donc vous êtes moins solvable. Vous pouvez avoir un pépin de santé. Et donc là, ce que je propose, c'est le prêt avance mutation. Et on a commencé à faire quelques sondages avec les gens qui étaient dans la task force. Mais je serais ravi, avec seloger.com, d'aller plus loin pour savoir si ce prêt avance mutation, qui est un prêt pour financer la rénovation thermique, que l'on ne rembourse que lorsque l'on cède son bien à la succession, malheureusement, est-ce que ça a un appétit ou pas? Et ça, moi, si Séverine Amat en est d'accord, c'est aussi dans votre émission que parfois elle se fait l'actualité, on faudrait que la commenter. J'aimerais bien qu'on puisse lancer une étude avec seloger.com pour savoir s'il y a un véritable marché ou si c'est finalement assez marginal. Parce que j'ai entendu un peu tout et sous contraire. J'ai entendu des gens dire « Ouh là là, M. Sichel, vous touchez la succession en France, c'est sacré. » J'ai entendu des gens dire « Non, attendez, c'est un peu logique. » La rénovation, ça va faire prendre de la valeur au bien.
Bien sûr.
Donc c'est logique qu'à un moment, on se récupère au moment de la succession. Il y a toute cette valeur verte, peut-être Rosine Conan le dira, mais le fait quand même qu'une passoire thermique, ce soit un gros passif finalement sur la valeur, parce qu'on ne va plus pouvoir le louer à partir de 2028, ben, les gens, quand ils font une rénovation thermique, ils redonnent de leur valeur à leur bien. Donc asseoir un prêt sur la valeur de ce bien, ça me semble assez fondé économiquement, voire moralement. Mais je serais prêt à creuser un petit peu plus, à poser les bonnes questions avec l'équipe de sologer.com, qui a une telle audience que ça doit être très, très, très vite représentatif.
Alors on le voit, et je redonne la parole à Séverine, l'échantillon, on a rarement des études sur le logement avec des échantillons aussi, aussi importants. Séverine parlait de plus de 2400 propriétaires interrogés dans le cadre de l'étude sur la rénovation. Séverine, qu'est-ce qui motive les futurs acquéreurs justement à se lancer dans l'achat d'un bien à rénover ?
Alors, encore une fois, je le dis, je le répète, ils vont réaliser des travaux parce que ça va leur apporter un bénéfice personnel, hein, d'accord ? Et on voit au travers de l'étude que la rénovation énergétique arrive en fin de liste, seulement pour, elle compte pour 29% d'entre eux simplement. Ce qui va importer pour eux, ce qui va avoir de la valeur, c'est d'abord la volonté d'aménager un bien à leur goût. Et ça, ils sont 53% à l'exprimer. Ensuite, c'est le fait de payer moins cher, hein, le bien, sans avoir à changer de localisation. Ça, c'est extrêmement important pour 45% d'entre eux. Et puis, le fait de gagner en surface aussi, 33%, un élément qui est extrêmement important. On le voit post-Covid, la surface est quelque chose qui revient souvent, en plus de l'équipement Wi-Fi, mais là, on parle de rénovation. Mais ça n'empêche pas au Wi-Fi d'être présent. Voilà. Et en dernier lieu, la rénovation énergétique intervient pour 29% d'entre eux. Donc, on voit qu'il y a vraiment un travail de fond à réaliser auprès de ces porteurs de projets qui sont fortement intéressés au DPE, on en parlait. Ils sont 87% à accorder de l'importance à la performance énergétique de leur futur bien et 33% la jugent même comme très importante. Voilà. Donc, ils s'y intéressent à ce DPE avant même de visiter le bien. Et ça peut être quelque chose qui peut aussi compromettre l'achat de ce dit bien. Donc, on voit que...
Séverine, est-ce que pour autant, le gain de performance énergétique via ce DPE dont on a parlé, est-ce que c'est un déclencheur suffisant dans l'acte d'achat ?
Non.
Henri dit non.
Alors, je dis non. Je reviendrai tout à l'heure, mais je pense que la question, elle a été évoquée aussi bien par Olivier que par Roselyne, de la valorisation du bien ou de la dévalorisation du bien, elle est centrale. Alors, on manque d'études, hein, dans l'étude d'impact
sur la fameuse
du DPE,
valeur verte du
la logement. Fameuse valeur verte. Quand on est dans le tertiaire, on le sait, d'ailleurs, c'est une traduction, valeur verte, hein, c'était green value. Hein, bon, les anglo-saxons ont identifié qu'il y a déjà 20 ans, pour le tertiaire, c'était clair. C'est-à-dire qu'il y a des biens qui ont été disqualifiés. Une entreprise ne va pas acquérir ou louer des locaux qui n'ont pas cette performance ou cette valeur s'ils sont investisseurs. Pour le logement, elle est en train de s'imposer partout, même en zone tendue, c'est-à-dire qu'au cœur de Paris, on va regarder le DPE et on achètera en fonction de ça, on achètera, mais le prix sera en fonction de ça. Ouais. Bien sûr qu'à Paris, on va acheter, parce que de toute façon, l'offre est très réduite, mais pas à n'importe quelle valeur estimée. Ça, les ménages l'ont en tête. Ça me conduit à dire que dans le rapport d'Olivier, il y a quelque chose de très important. Il a parlé de cette population exclue du crédit, les personnes les plus âgées, on va dire les seniors. Bon. Mais d'une manière générale, les ménages qui sont réticents, c'est aussi qu'ils se disent qu'ils vont s'endetter en général au maximum de ce qu'ils peuvent faire pour acheter un logement. 33%. Bon.
Au moins jusqu'à 35 maintenant.
Pour du neuf. Pour du neuf, en effet. Et puis ensuite, ils vont avoir des travaux dans des proportions qui ont été évoquées et qui sont précises dans le rapport Sichel. 46 000 euros pour les maisons individuelles, 25 000 euros pour les logements collectifs. C'est gigantesque. Et là, on les trouve où ? Il faut que les banques anticipe ça, qu'il soit clair grâce au diagnostic, grâce aux audits, que dans les 2 ans, 3 ans, il va falloir engager ces fameux 30, 40, 50 000 euros. On les trouve dans un plan de financement. Donc les banques vont devoir répondre à ça pour les plus jeunes comme pour les plus âgés et pour les autres.
Olivier, on reviendra surtout, ensuite. Oui, c'est vrai, Nelly.
Non, je disais, j'apporte un élément complémentaire suite à l'étude. Surtout que moi, ce que je sais au travers de l'étude, c'est que 6 porteurs de projets sur 10 intéressés par un bien avec travaux a déjà anticipé le financement de ces travaux. Donc, c'est quand même important, c'est-à-dire que quand ils se projettent dans cette acquisition, ils ont aussi, dans leur enveloppe budgétaire et dans leur besoin d'accompagnement bancaire, ils ont anticipé ce besoin et ce financement. Donc, voilà, c'est quand même un chiffre à prendre en considération.
Là aussi, Olivier, sur les sources de financement, vous en parlez, vous détaillez ce point dans le rapport, parce que je pense que le triptyque d'une rénovation énergétique qui fonctionne, c'est à la fois une bonne information partout sur le territoire. On a parlé des maisons France Service. Un accompagnement, là aussi, vraiment de A à Z, depuis le projet jusqu'au contrôle même des travaux réalisés. Vous y êtes revenu. La question des financements, vous avez évoqué ce prêt avance mutation, qui est un prêt qui existe dans la loi depuis quelques années, mais qui, on l'a vu, n'a pas été vraiment utilisé par les banques. Qu'est-ce qui demain pourrait changer et quelle source de financement? Parce que on le voit, et comme nous l'a dit Séverine, les propriétaires en majorité abordent la question de la rénovation avec déjà une idée assez claire du financement qu'ils veulent avoir.
Alors, il y a le moment clé qui est celui de la mutation. Ce que disait Henri Buzocaso, au moment de la mutation, le diagnostic, le nouveau diagnostic tel que l'a présenté Rosine Conan, va permettre d'avoir une idée beaucoup plus claire du montant. Et ça, il y a une discussion qui va être beaucoup plus éclairée entre le ménage et son banquier sur, certes, vous achetez un bien, mais il y a un volet travaux à prendre en compte qui permet à ce moment-là de dire au banquier, écoutez, là, vous avez prévu d'emprunter 80 000 euros. Vu le montant des travaux, il y a peut-être une rénovation qui va être de 30 000 euros. Vous aurez 10 000 euros d'aide. Il faut peut-être faire un prêt de 100 000 euros et allonger la durée du prêt en respectant les différents ratios. Donc ça, c'est une discussion éclairée qui va commencer à avoir lieu de plus en plus avec le nouveau DPE et qui est une discussion entre le banquier et son client. Alors après, moi, j'ai toute la partie des gens qui habitent dans des passoires thermiques, qui n'ont pas vocation à les vendre et qui se trouvent face au mur des travaux. Soit parce qu'ils ne sont pas solvables, soit parce qu'ils sont des seniors. Et là, j'ai essayé de trouver une formule. Alors, il y a les formules que j'ai écartées. Parce qu'on a travaillé dessus, mais parfois, vous, dans le discours écologiste, vous l'avez, ça. C'est de se dire, c'est pas compliqué, on se refait sur les économies d'énergie. Et là, bah, je suis content que vous le disiez, Henri, c'est important, il faut le redire, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas, et c'est l'argument aujourd'hui. On l'a dit au début, moi j'ai le souvenir d'un certain Jean-Louis Borloo, quand il a signé une convention avec tous les grands acteurs, j'en étais à l'époque, je dirigeais la FNAIM, on était en 2007. Dans son discours, il y a eu l'argument, vous allez vous refaire sur les économies, parce qu'on le croyait, il était de bonne foi, tout le monde le pensait, la Fédération du bâtiment ne pensait pas différemment, etc. Ça ne suffit pas, c'est un élément, ça ne suffit pas, c'est une évidence, on mentirait au ménage.
Précisons que dans le DPE, il y a une estimation de la facture énergétique du logement. C'est une fourchette.
Oui.
Je pense que c'est bien de rester sur une fourchette et de ne pas promettre des choses irréalistes, ou en tout cas qui ne dépendent que des usages en réalité, parce que il y a la rénovation et puis il y a l'usage du logement. Là-dessus, vous avez raison d'insister, Olivier.
Alors, c'est important. Les gens vont faire des économies d'énergie, oui, mais ce serait dangereux de gager des suppléments de mensualité sur les économies d'énergie qu'on va faire. Ça marche dans certains cas très particuliers, le logement collectif avec du chauffage central. En clair, là, vous avez des syndics qui sont capables de dire « Ok, on va changer la chaudière, on va avoir telle performance. » Et les gens, ils étaient tous chauffés à 19 degrés avant, ça restera pareil. Ce qu'on a constaté, nous, c'est que les gens qui habitent dans des passoires thermiques, ils vivent parfois à 16 ou à 17 degrés. Il ne faut pas imaginer que lorsque la rénovation soit faite, ils vont continuer à vivre à 16 ou à 17 degrés. Donc il y a des comportements qui vont changer. Et puis peut-être qu'à un moment, il y a le gamin qui revient parce qu'il y a un chômage, donc il y a une pièce de plus à chauffer, ou vous avez décidé de vous acheter un vélo électrique, il faut le recharger, ça va faire augmenter votre facture d'électricité, ça n'a rien à voir avec le chauffage. Donc ça, nous les avons vraiment écartés. En revanche, on se dit que la prise en compte de la valeur du bien, ça peut se faire. Et à ce moment-là, On a essayé aussi un peu la même méthode, très pratique. Pourquoi ça ne marche pas? Et ça ne marche pas parce que les banques vous disent aujourd'hui, je ne suis pas sûr de pouvoir récupérer le montant de mon avance, le montant de la succession. Et donc là, on a travaillé avec les notaires. Ça tombe bien. À la Caisse des dépôts, on connaît bien les notaires, ça fait partie de nos clients, et on est en train de préciser les conditions de l'inscription d'un privilège, c'est une autre forme de l'hypothèque, qui pourra dire au moment de la succession, vous vendez votre maison, elle valait 100 000 euros, vous avez fait 40 000 euros de travaux, mais il y avait 10 000 euros d'un prêt du crédit mutuel que vous avez fait il y a 5 ans, à ce moment-là, on rembourse le crédit mutuel, il n'y a pas de problème. Et c'est ça que je voudrais savoir si vraiment c'est dans l'air du temps. Moi, je pense que c'est quelque chose d'important qui ouvrira la voie, et j'en parle aussi au président du Comité national de l'habitat, peut-être aussi au financement des travaux nécessaires pour le maintien à domicile des seniors, ou des questions d'aménagement du foyer, les douches à l'italienne, des choses comme ça, où si ce dispositif fonctionne, il permettra aussi de financer les aménagements du foyer pour que les seniors puissent vieillir à domicile.
En termes d'aide, et je redonnerai la parole à Séverine là-dessus, mais on peut saluer aussi l'action du groupe Action Logement, justement. Et à l'époque, c'était Julien de Normandie, ministre du Logement, avec qui j'en ai reparlé récemment, qui avait lancé justement un grand chantier pour adapter les baignoires et les salles de bain des seniors et faire des douches à l'italienne. Et on a aujourd'hui des dizaines de milliers
de
personnes.
Or, c'est un jeune homme. On pense à son avenir aussi.
Exactement. On pense,
son vieillissement.
On pense intergénérationnel. Et donc, en tout cas, c'est quelque chose qui marche. Séverine, je reviens vers vous. Dans la projection que vous faites sur que les propriétaires font sur les coûts des travaux, est-ce qu'ils ont le réflexe des aides à la rénovation ?
Non, pas du tout. Non. Enfin, ils pourraient avoir un plus grand réflexe, on veut dire. En fait, ce qu'on lit au travers de l'étude, c'est que seul 1 sur 2 se dit informé sur les éventuelles aides à la rénovation dont il pourrait bénéficier. Alors, pourquoi 1 sur 2? Parce que 36% disent ne pas être, ce que je vous disais tout à l'heure. 36% ne savent pas où chercher l'information. C'est quand même grave. C'est quand même important. Donc, je pense que la volonté d'Olivier Sichel que de créer une plateforme qui informe et qui rassemble un seul point de chute, à mon sens, c'est comme ça que je l'ai compris, mais ça peut être que bénéfique parce qu'aujourd'hui, cette infobésité, eh bien, elle existe et notamment sur le thème de la rénovation, ça c'est flagrant. 16% évoquent même des démarches trop contraignantes, c'est-à-dire que voilà, ils s'excluent d'office parce que ça leur semble compliqué. Voilà. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est ce que je vous ai dit, seuls 52% des personnes sont et connaissent MaPrimeRénov', donc il y a encore une grosse démarche de pédagogie à avoir. Et ce qu'on sait au travers de l'étude, enfin, c'est que cette prime n'a pas forcément d'impact sur les projets d'achat, puisqu'ils ne sont que 33% à affirmer que cette aide pourrait être un déclencheur à leur projet. Voilà, donc pour résumer et pour conclure, il y a une vraie pédagogie à avoir, un vrai accompagnement, j'adore ce terme, de ces utilisateurs, de ces users, qui sont des personnes qui sont aussi des internautes et avant tout des mobinautes aussi. Donc voilà, avoir cette vision un peu macro, mais vous l'avez puisque vous êtes un homme du web, un homme du digital, donc ça ne peut que s'améliorer en ce sens. Voilà. Et nous, on vous aidera au travers de l'étude à prendre le pouls et voir un peu comment ce dispositif et toutes ces aides et ces obtentions, en fait, elles se clarifient dans l'esprit puisque c'est ce qu'on vous permettra de suivre aussi au fil du temps. Voilà.
J'aime bien que vous appréciez le terme accompagnement parce que je l'ai vraiment imposé. Quand je suis allé sur la première fois sur la plateforme MaPrimeRénov', j'ai essayé de faire le parcours en tant que client et j'ai buté sur le thème « Est-ce que vous cherchez un audit thermique, un diagnostic thermique ou un assistant à maîtrise d'ouvrage ?» Alors moi, je ne viens pas de ce secteur-là, mais assistant à maîtrise d'ouvrage…
Si vous n'avez pas Roselyne Connard à côté, vous ne pouvez pas comprendre.
Donc je suis assistant à maîtrise d'ouvrage. Alors déjà, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, j'ai mis un peu de temps à comprendre quelle était la différence. Mais alors, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, donc je dis, moi je veux quelqu'un qui m'accompagne, quoi. Ouais. Quelqu'un qui soit à mes côtés, que je puisse appeler pour les aides, pour l'audit thermique, pour le financement, qui m'aide à m'y retrouver, quoi.
Après, n'hésitez pas, hein. Je pense que vous connaissez bien le réseau des ADIL, donc c'est vrai que l'accompagnateur peut jouer un rôle effectivement sur toute l'opération, mais c'est vrai que l'enjeu de l'information amont, elle est importante pour l'aide à la prise de décision. Et ne pas hésiter à renvoyer sur le réseau FER et le réseau des ADIL qui sont présents et qui, on va dire, ne s'ennuient pas, même si MaPrimeRénov' n'est pas assez connue. En tous les cas, l'information va quand même à un certain nombre de, 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 de propriétaires occupants, d'investisseurs et autres profils. Mais
grâce notamment à tous les 450 juristes en France,
c'est ça,
les ADIL
qui vous répondent tous les jours. Tous les sujets logement. Et c'est vrai que sur le côté Maison France Service, ils ont une approche assez généraliste de plein de sujets, hein, que ce soit le sujet emploi, le sujet logement. Donc c'est vrai que ne pas hésiter aussi à flécher sur vraiment les acteurs du logement, ce que Maison France Service refera forcément. Mais c'est vrai que ne pas hésiter vraiment à cibler immédiatement sur les acteurs logement pour avoir l'information complète et experte dès le premier appel. Quoi.
Séverine, vous vouliez réagir ?
Moi, je disais que la sémantique est extrêmement intéressante et il faut s'y pencher. C'est-à-dire que nous, Groupe Sologé, au travers de nos sites, on est aussi des moteurs de recherche où on voit ce que les gens tapent. C'est intéressant quelquefois. Et on pourrait s'intéresser justement à cette sémantique autour de la rénovation. Qu'est-ce que les gens tapent ? Est-ce qu'ils tapent audit ? Est-ce qu'ils tapent… Voilà, je ne pense pas. Je pense qu'on est dans des termes beaucoup plus déglutis, beaucoup plus digestes. Et il faut penser véritablement à cet utilisateur qui est jeune ou plus ou moins jeune et qui vit et avance avec son époque. Voilà.
Merci Séverine. Alors Olivier, vous avez insisté beaucoup sur ce job d'accompagnateur de la rénovation énergétique. Henri, vous voulez nous parler du rôle des professionnels de l'immobilier. Je vous propose qu'on démarre ce billet d'humeur.
Planète Immo, le billet d'humeur par Henri Buzicazo.
Bon alors c'est une humeur, mais c'est d'abord une évidence à rappeler. Il y a deux grandes professions populaires. Je parlais de la popularité du DPE. Alors, le diagnostiqueur est devenu populaire, mais l'agent immobilier, le gestionnaire de biens locatifs, gestionnaire de copropriété, bon, voilà, ce sont des professionnels bien connus et on a affaire à eux quand on achète, quand on loue, quand on est en copropriété, quand on est locataire ou qu'on est investisseur. Bon. Ça veut dire que des millions de Français ont tous les jours affaire à ces professionnels. Leur rôle dans cette affaire, il est évident. Tout ce que vient de dire Séverine, le défaut d'information sur les acteurs, sur les obligations, voilà. Alors, les organisations professionnelles ne déméritent pas. J'en veux pour preuve, par exemple, l'engagement, on parle de copropriété, mais on pourrait parler d'autre chose, de la FNAIM et de l'UNIS en commun pour que 50 000 copropriétés soient rénovées au plan énergétique dans les 2 ans à venir. Ça n'est pas rien. Engagement signé avec la ministre chargée du logement. D'autres organisations professionnelles, bien sûr, en amont, le bâtiment, font aussi beaucoup. Mais on s'aperçoit qu'il y a souvent une distance par rapport aux adhérents. C'est-à-dire que la motricité, hein, comme on dit en rallye, il y a un gros moteur. La FNAIM, c'est un gros moteur. L'UNIS, c'est un gros moteur. Voilà, il y a un effet d'entraînement. Et puis après, il y a des adhérents. Et souvent, la puissance, elle a du mal à passer aux roues, quoi. Bon. Donc, ces fédérations ne doivent pas se payer de mots. C'est-à-dire, elles ne doivent pas se dire, on a signé engagement, on met à disposition des formations, par exemple, ben moi j'apprends que des formations sont régulièrement annulées, faute de combattants. Donc il y a un sujet, voilà. Est-ce que c'est réel cette didactique ? Est-ce que ça marche ? Faut pas oublier non plus que la moitié des professionnels de la transaction de la gestion ne sont pas affiliés à un syndicat, ne sont pas au SNPI, à l'UNIS ou à la FNAIM, la moitié. Donc cela, comment on les touche ? C'est compliqué. Par ailleurs, il y a chez les professionnels, pour atterrir sur les professionnels eux-mêmes, et sans parler des syndicats, une prise de conscience qui est très insuffisante aujourd'hui, je le dis. Alors il faut se soigner, il faut la catalyser. Les professionnels aujourd'hui ne connaissent pas les obligations, et elles bougent beaucoup, ces obligations. On a parlé ce matin de ce qui est un projet de loi encore, hein, climat-résilience. Dans quelques semaines, ce sera une loi. Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour qu'une loi soit connue suffisamment, à peu près bien, des acteurs professionnels?
Ça dépend de la communication qu'on en fait.
Bien sûr. Mais quand elle est faite, allez, on va dire activement par leur fédération, par l'État, il ne faut jamais moins de 6 mois. Jamais moins de 6 mois. Parfois plutôt 1 an, quelquefois plus que ça. Si ça bouge entre-temps, n'en parlons même pas. Donc soyons réalistes là-dessus, il y a un énorme travail à faire pour embarquer le corps professionnel. C'est 30 000 professionnels, hein. Transaction gestion, 30 000 entreprises. Par ailleurs, ces entreprises, ces collaborateurs d'entreprises, agents immobiliers, administrateurs de biens, il y a un sujet sur lequel ils ne sont pas, c'est l'ingénierie financière. On en a parlé avec Olivier Sichel, avec Séverine, avec Roselyne. Très vite, le nerf de la guerre est bloquant. Voilà. Bon. Comment fait-on ? Diversité de situations, on est jeune, on est vieux, on a tel ou tel emploi, on est en CDI, on est en CDD. Comment on fait pour financer ? À quoi a-t-on accès ? À quoi a-t-on droit ? Tout cela, les professionnels immobiliers sont très en retrait de la main. Je le dis franchement, l'ingénierie financière, ce sont des bons pros de la vente, de la location, de la gestion. Loin de moi l'idée de critiquer ça, il faut qu'ils se disent que dans leur métier, il y a un nouveau métier qui est de savoir les conseiller, de savoir s'appuyer sur des partenaires aussi. Parce qu'enfin, je trouve que les professionnels, face à cette rénovation énergétique, ils voient bien qu'il y a des acteurs, il y a un écosystème. Alors on a cité l'ADEME, on a cité l'ANA, on a cité l'ANIL, ce sont des agences publiques. On a cité d'autres acteurs, on a cité les collectivités locales. On est tous dans une commune. Eh bien, si je suis agent immobilier dans ma commune, je vais devoir me tourner aussi vers les élus, vers les services locaux, vers les services déconcentrés de l'État. L'écosystème, il est complexe. On peut le simplifier. Quoi qu'il en soit, il faut le connaître. Les professionnels ne le connaissent pas. Rosine m'en est témoin. Nous avons rencontré il n'y a pas longtemps le patron d'un très grand réseau immobilier français. Je ne le citerai pas parce qu'il fait de beaux efforts, justement. Eh bien, à la question, est-ce que vous avez des relations ? C'est un réseau leader en transactions, en location et même en gestion aujourd'hui. Est-ce que vous avez des relations avec les ADIL, partout où vous êtes ? La réponse est non. La réponse est non. Donc, il y a encore un travail de rattrapage énorme à faire. Et puis, je reviens d'un mot sur ce qu'on a dit aussi avec Olivier, la question de l'argumentaire. Les professionnels, s'ils veulent dire à un acquéreur, à un vendeur, à un bailleur, vous devez engager des travaux. Un bailleur, parce qu'à partir de 2028, il ne pourrait plus louer. Donc, de toute façon, ça, ils sont trop, d'ailleurs, dans l'idée d'une écologie punitive. Hein. Donc, ils n'ont pas trop envie d'en parler. Il faut aussi qu'ils changent de perspective. Mais surtout, il faut qu'ils trouvent les bons arguments qui sont, pour partie, les économies d'énergie. On est d'accord. Pour partie, les obligations. Hein, faut les rappeler. Mais ce n'est pas ça qui donne envie de faire. Il y a le confort de vie. On n'en parle jamais. Propriétaire occupant, si je suis bailleur, mon locataire, il va être mieux logé. Donc mon loyer, je vais pouvoir peut-être aussi l'optimiser, hein, qu'on soit sous un régime d'encadrement ou pas. On peut optimiser son loyer. Le confort de vie, jamais n'est évoqué. La sensation de paroi de froide, par exemple. Enfin, on a tous connu ça. Sans vivre dans des parois énergétiques, dans des passoires énergétiques, on ne vit pas bien. Et la question de la valeur verte. Voilà, je n'approfondis pas. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Pouvoir dire à quelqu'un, mais ce logement, vous allez lui faire gagner 10% de sa valeur, même sur un marché tendu. Ne comptez pas sur la même plus-value à Paris, à Bordeaux, à Lyon ou à Rennes, si vous ne faites pas les travaux. Il y aura une sanction technique par la valeur du bien. Ça, c'est vraiment un argumentaire à revoir. On n'a pas les bons arguments aujourd'hui. On ne sait pas soulever l'enthousiasme. Tout ce qu'a dit Séverine, il faut vraiment le mûrir, qu'il y ait de telles fractions de la population qui soient encore tièdes par rapport à ça. Ça ne va pas du tout. Il faut réchauffer, non pas le climat, mais nos compatriotes.
Vous entendrez, je vous sens un peu sceptique sur le potentiel de la filière, justement, à aller plus loin.
Alors, comme disait Aristote, Paul Lacoste, les Gestaï, hein, j'aime bien citer Aristote, ça veut dire on peut le lire de plusieurs façons. Et effectivement, c'est toute la question de la polysémie du propos. Mon propos, on peut se dire, finalement, hein, il est pessimiste. On peut penser l'inverse. Moi, je pense l'inverse. Je dis qu'il y a un tournant historique pour ces professionnels de la transaction ou de la gestion. Les syndics, on l'a beaucoup dit. Et que chacun doit prendre conscience qu'il est en train de lui-même de pouvoir se valoriser. Tous ces professionnels qui étaient des professionnels opérationnels. Allez, j'ai besoin de vendre un logement, vite et bien, je vais voir un agent immobilier. C'est pas que ça aujourd'hui, ça va être un valorisateur de logement. Un syndic, c'est pas juste celui qui me résout mes problèmes tous les jours pour que l'ascenseur fonctionne et que la chaudière soit pas en panne. Il va valoriser mon immeuble collectif et mon lot, mon appartement individuel. Donc aujourd'hui, c'est un changement de paradigme, comme on dit, hein, les professionnels, véritablement, ont une chance historique de gagner en image, en estime de la part de la population, de pouvoir prétendre à des honoraires. Très clairement, les syndics, quand ils vont emporter l'adhésion sur 800 000 euros de travaux dans un immeuble, parce que ça va être dans ces proportions-là, ou 1 million, eh bien, il y a le suivi des travaux. Ils vont pouvoir, évidemment, prétendre à des honoraires. Si très vite, on se dit, mais ce syndic, il sait me faire des économies, valoriser mon immeuble, et donc je le choisis, Et oui, il est plus cher. Ses honoraires, ils sont libres, les honoraires. Il est plus cher. Mais je sais qu'il a l'ingénierie. Je sais qu'il a un service adapté, même dans un cabinet moyen. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une chance historique pour les professionnels. Moi, je ne vois pas les choses autrement. Ils ont, allez quoi, ils ont 2 ans pour se transfigurer et pour accompagner cette mission publique et planétaire, puisqu'on est à Planète Immo.
Merci Henri. Séverine, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce biais d'humeur? On a l'habitude d'avoir notre Henri national qui égratigne les acteurs de l'immobilier.
Qui les pousse, il en met l'épée dans les reins.
Même si je ne suis pas à vos côtés et que je suis sur Aix-en-Provence et que le soleil est là, je trouve que Henri, son billet est toujours solaire.
Voilà. Ah, c'est beau ça.
Donc, il a cette action que d'éclairer et faire prendre conscience des choses, c'est vrai. Et que moi, ce que je retiens, c'est cette mobilisation à avoir de la part de l'ensemble du corps professionnel. Ils ont 2 ans pour se mobiliser. Faut-il qu'ils soient formés aussi? Ça, c'est un autre sujet, je ne sais pas. Mais cette notion de rénovation énergétique, on voit que c'est un enjeu et c'est l'enjeu de demain. Donc,
et Henri participe à les former, ses futurs professionnels, avec l'IMSI.
Oui, j'y prends ma part, bien sûr. Bien sûr. Voilà.
On va revenir sur MaPrimeRénov. Séverine, tout à l'heure, nous dressait un peu le portrait robot du futur acquéreur. MaPrimeRénov, je le rappelle, c'est 2 milliards d'euros qui ont été investis dans le cadre du plan de relance. Et le gros changement, c'est qu'ils sont ouverts à tous. On a parlé des futurs acquéreurs, mais les propriétaires occupants comme les propriétaires bailleurs, qu'ils soient en maison individuelle ou en copropriété, et on va venir au sujet de la copropriété, peuvent aujourd'hui demander ces aides. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous avez réfléchi, Olivier. Comment on accélère la rénovation en copropriété? On sait qu'une rénovation efficiente dans une copropriété, elle repose sur une décision collective du syndicat des copropriétaires, prise en AG. Ce n'est pas toujours simple. Pour ceux qui ont vécu des AG de copropriété, ce n'est jamais simple de se mettre d'accord. Est-ce que vous avez pensé à de nouveaux outils pour massifier la rénovation énergétique dans les copropriétés?
Alors, le dispositif de l'accompagnement, il a vocation à aider tous les ménages, qu'ils soient en maison individuelle ou en copropriété. Et je rappelle, Henri l'a souligné, que pour le ménage, c'est moins cher de faire de la rénovation en copropriété qu'en maison individuelle. L'écart est plus du simple au double. Pourquoi? Parce qu'en copropriété, vous avez un seul toit pour tout le monde, vous avez une façade pour tout le monde. Donc, il y a des avantages à être en copropriété, c'est que vous partagez les coûts. Pour autant, il y a des spécificités, et c'est vrai que c'est un peu un regret dans le rapport. On n'a pas eu le temps d'aller aussi loin. Le président de l'ATLAIM, le président Torayon, est venu et nous a donné quelques idées qu'on a reprises. Mais comme ce n'est pas l'essentiel des passoires thermiques, on s'est concentré surtout sur les maisons individuelles. La grosse difficulté qu'on a dans la copropriété, c'est engager les copropriétaires. C'est la règle de l'unanimité. C'est aussi l'endettement de la copropriété. Même si on a fait des progrès, on voit bien qu'il y a encore des choses qui bloquent. Mais Henri en parlerait certainement mieux que moi.
Il y a une chance, c'est que presque 100% des copropriétés, 90%, ont face à elles des professionnels. Alors qu'en transaction, en gestion locative, on le sait, gestion locative, il n'y a qu'un logement sur 3 qui est géré par un professionnel. Transaction, allez, 60% des transactions sont professionnelles. C'est une chance pour les professionnels, d'ailleurs, de regagner du terrain, d'augmenter leur taux de pénétration. En copro, on voit bien qu'on s'appuie sur les syndics. Le mot syndic revient tout le temps dès qu'on parle de copro. En gestion locative, on ne peut pas dire ça. On n'a pas le professionnel toujours face à soi et en transaction non plus.
Dernière question pour Roselyne avant de vous laisser le mot de la fin, Olivier. Le sujet de la professionnalisation du secteur, que ce soit côté artisans qui font la rénovation, on a un label RGE reconnu garant de l'environnement. Tous les artisans qui réalisent des travaux pour une rénovation n'ont pas forcément ce label. Et même ceux qui l'ont, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément toujours synonyme de fiabilité. Comment on aide les Français à se repérer dans ce maquis, à la fois des aides, on en a parlé, mais aussi de cette offre de professionnels pas toujours, toujours réglo?
Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que pour bénéficier de certaines aides, on a une obligation de passer par un professionnel certifié, donc RGE. Donc, il est évident que le ménage qui va devoir trouver l'artisan ou l'entreprise qui va intervenir pour faire ses travaux a besoin de sécurité. Donc on a un listing, une identification de ces professionnels qui font l'objet d'une vérification de bonne fin des travaux, de qualité, de respect des niveaux de performance des travaux qui sont réalisés. Donc Je pense qu'il y a encore une montée en puissance qui doit se mettre en place sur les territoires pour qu'on ait beaucoup plus d'entreprises qui soient certifiées. Parce que quelquefois, ce qui nous manque, c'est justement de trouver un artisan qui soit labellisé. Donc, il y a tout ce travail de formation aussi qui est mis en place aujourd'hui pour faire monter en compétences les professionnels. Donc, bien évidemment, pour orienter les ménages, on a ce listing des professionnels RGE. Quelquefois, au niveau local, certaines plateformes passent des accords avec des professionnels qui, justement, s'engagent aussi dans la bonne fin et la bonne qualité des travaux. Donc, n'hésitez pas à vous informer, n'hésitez pas à contacter le réseau FER et le réseau des ADIL, qui peuvent aussi vous accompagner et vous aider justement dans comment identifier les professionnels, sans vous renvoyer directement sur un professionnel, mais vous expliquer ce que c'est que ce label RGE.
C'est bien noté. Dernier mot pour la fin, Olivier Sichel. Vous avez parlé de l'agrément et de l'aval des collectivités aussi qui sera donné pour, fiabiliser encore plus le recours à ces professionnels. On a évoqué beaucoup de sujets durant cette heure d'émission. Je vous laisse le mot de la fin.
Écoutez, moi, je suis très optimiste sur cette politique. D'abord, il faut rappeler que c'est une très, très bonne politique parce qu'elle garde l'emploi en France. Le domaine dont je viens, dans le numérique, malheureusement, on le sait bien, quand on achète un smartphone, on ne fait pas beaucoup travailler la valeur ajoutée française. Quand on héberge des données dans le cloud, là aussi, la rénovation thermique des bâtiments, ça utilise des compétences françaises et on va faire une montée en compétences françaises. Ça accroît le confort des ménages et puis ça fait du bien à la planète.
Imo,
Miguel.
Merci pour ce clin d'œil que je renvoie aux auditions et à l'examen en commission spéciale du projet de loi climat et résilience, puisque votre nom a dû être cité au moins 1000 fois durant l'examen. Ça va se poursuivre, puisque je rappelle que le calendrier législatif arrive à grands pas avec l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale entre le 29 mars et le 16 avril prochain de ce texte qui va changer vraiment la vie dans le logement. Je crois que c'est un texte très ambitieux qui vise à améliorer la vie des Français, à faire en sorte que le logement pèse moins dans les émissions de CO2. On veut lutter contre le dérèglement climatique et évidemment, ça passe aussi par le logement. Je vais remercier l'ensemble des personnes qui ont aidé à préparer cette émission, qui nous suivent en régie. Merci Charlotte, toujours disponible et puis à l'écoute pour préparer cette émission. Merci Henri de votre expertise toujours et de votre biais d'humeur.
Merci,
toujours Michael. Parfait. Merci Séverine qui nous suivait en visio depuis Aix-en-Provence. On rappelle, Se Loger fournit des études et je grâce à cette émission, on va peut-être avoir de nouvelles études demain sur les profils des propriétaires bailleurs et propriétaires occupants qui se lancent dans des projets d'acquisition. Merci beaucoup Séverine et à toutes vos équipes également. Merci Roselyne, on rappelle le rôle majeur des ADIL, les agences départementales d'information pour l'information sur le logement, qui sont présentes partout sur le territoire.
Et on fait aussi des études.
Et vous faites aussi des études qu'on regarde avec attention, que le législateur regarde avec attention.
Qu'utilise Se Loger, c'est évident. C'est
sur ça. Les freins et motivations des bailleurs aux travaux.
Il y a des passerelles entre nous tous. C'est ça la planète
IMO. On œuvre tous pour la rénovation énergétique.
C'est ça la planète IMO. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Planète IMO.
Planète IMO, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.